sous les couvercles, la good food.
Aujourd'hui, Carlo, Fabrizio va prendre le temps de ralentir. De ralentir pour mieux comprendre, car si l'on mange de plus en plus vite, de plus en plus standardisé, de plus en plus mondialisé, eh bien, une autre voix s'élève désormais, même depuis plus de 30 ans, pour défendre une alimentation bonne, juste et propre. Cette voix, c'est celle du mouvement Slow Food, incarné ce matin par Marta Messa, vous en êtes la secrétaire générale à l'international. C'est à Bruxelles, ce week-end, beau week-end ensoleillé, qui va nous donner envie de prendre notre petit panier, puisque se tiendra donc jusqu'à lundi la première édition du Terra Madre, un grand rendez-vous paysan, citoyen, politique, militant, engagé. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est une sorte de sommet finalement.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'idée d'organiser un moment de rencontre jusqu'à mardi, en fait. Oui. Donc, et nous avons invité à Bruxelles, qui est une ville très intéressante du point de vue gastronomique, mais aussi de toutes les dynamiques politiques qui se passent avec toutes les institutions européennes.
On en parlera.
Nous avons invité des producteurs, donc des paysans, mais aussi des artisans du réseau Slow Food de chaque pays européen et de l'Ukraine. Et on a aussi invité une délégation de cuisiniers pour organiser des rencontres ouvertes au public. Donc, dimanche, on part avec le lancement du premier marché de la terre Slow Food, organisé par notre bel groupement belge de cuisiniers, des activistes.
Dont Maxime fait partie.
Ouais. Exactement.
Voilà. Et on a une vingtaine de producteurs qui vont venir.
23 producteurs.
Mm-hmm. C'est ça. Et c'est vraiment l'idée du marché de la terre Slow Food, c'est vraiment un lieu de rencontre où on ne va juste pas avec les paniers pour acheter, mais c'est vraiment un échange. On c'est apprend, ça. On comprend mieux quels sont les défis, quels sont les possibilités, quels sont les goûts et quelle est l'importance d'acheter local.
Finalement, on va questionner le monde, notre assiette. On va prendre le temps finalement d'échanger, parce que c'est vrai que parler avec un producteur, avec un chef, ça fait aussi sens, parce que quelque part, Maxime, vous êtes un peu les nouveaux prescripteurs d'un art de manger. Quand vous cuisinez slow food, et c'est ce que vous avez décidé de faire dans votre table conviviale, il y a quand même un message que vous voulez transmettre quand les gens viennent s'asseoir.
Oui, c'est ça. Nous, le but, c'est pas de dire ce qui va pas chez les autres, mais c'est de montrer comment nous, on fait pour pouvoir les influencer au mieux. Et donc ici, c'était... donc je prends un peu... On crée ici, c'est le lancement aussi de la SBL Impact, qui va justement gérer un peu toute la dynamique slow food en Belgique. Et donc c'est là où on va faire rencontrer les cuisiniers, donc de l'Alliance des chefs slow food qu'on remet à jour, et tous les producteurs. Donc il va y avoir aussi le label Ferme Slow Food qui va être lancé. Ouais. Donc ici, plutôt que de créer quelque chose où il y a que les producteurs ou bien que les restaurateurs, nous l'idée, c'est pas de remettre une couche, mais c'est de mélanger toutes les couches ensemble pour se faire se rencontrer tout ce petit monde là qui gravite autour du bon, du juste et du propre.
Carlo,
mais je vais peut-être faire un tout petit rétropédalage par rapport à la SBL Slow Food, qui est une grande association internationale et qui a des ramifications qui sont des ramifications spontanées, c'est-à-dire que dans chaque pays des groupes de gens, de producteurs ou de passionnés se constituent en petites unités et finalement se rattachent à l'organisation qui se trouve dans le Piémont en Italie, mais qui est une organisation mondiale, et choisissent. Donc c'est une génération spontanée. Cette génération spontanée, en Belgique, elle a toujours eu un petit peu de mal à prendre, et donc c'est pour ça que je me permets de contextualiser, parce que là, quelque part, avec l'installation de ce salon qui se tiendra, qui est ouvert au public, qui est ouvert à tous, et qui se tiendra ce week-end, finalement, quelque part, vous relancez une dynamique, une dynamique liée à ce mouvement slow food qui, je le répète, est né en Italie et qui se met sous cette ombrelle-là et dont le but est, et là vous allez nous dire, Maxime, de vraiment mettre en avant des tout petits producteurs de choses. C'est pas le blabla, oui c'est local, c'est de saison, non. Donnez-nous quelques exemples pour qu'on comprenne vraiment bien ces produits qui sont des produits parfois menacés de disparition.
Oui, des exemples, ici on peut parler... La Ferme Skippers, par exemple. Ferme Skippers, ça...
On est en SB.
Oui, on est en SB à Wands.
Ils ont un petit magasin à Wands qui s'appelle Champin.
Ils ont toute la partie... Donc, ils ont développé de la farine que j'ai utilisée pour...
Pour faire des petites gaufres. Des gaufres.
Voilà. Ils sont propriétaires... Je pense qu'ils sont propriétaires de leur terre et ils font des farines. Alors, dites-nous, ils font quoi
C'est farine froment. Après, c'est peut-être eux qui en parleront mieux que moi.
Ils ne sont pas là. Donc,
eux, c'est une partie de leur... Ils font de la grande culture, ils ont des poules pondeuses, ils font du maraîchage aussi, des fraises en saison, les asperges qui viennent de se terminer aussi, rhubarbe.
Et du sarrasin.
Oui.
Voilà. Vous avez, Sarrazin, vous avez, ils ont... avez
des actions. Je travaille parfois.
Ouais, non, c'est
pas
dingue.
Du, pas du tout. Mais l'idée,
c'est quand même de mettre en avant et ces producteurs qui ne sont pas forcément connus du grand public, parce qu'on a nos habitudes en hypermarché et qu'on ne sait peut-être pas qu'à même 3 km de chez nous, on a ce genre de production. Hein, c'est vrai, hein, Fabrizio, on n'est pas forcément toujours au courant. Et donc, c'est ça la dynamique de cette association qu'on retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Slow Food Community.
C'est ça.
Faut y aller, voilà. Parce que là, vous allez avoir toutes les infos. Slow Food Community.
C'est ça, exactement. Voilà. Donc là, c'est sur Instagram.
Voilà.
On crée une page il y a un mois de ça. Mais en fait, pour revenir à Slow Food, oui, nous, ce qui s'est passé ici, pendant les 10 dernières années à peu près, il y a eu ces petits mouvements spontanés, là qui étaient plutôt citoyens, c'est les conviviums.
Mm-hmm. Ouais.
Il y a eu est né aussi l'Alliance des chefs. Il y a eu pas mal de choses. Et puis alors ici, au mois de septembre, on a eu la grand messe Terra Madre à Turin.
C'est ça.
On se ressource un peu et on se nourrit un peu de ce qui se passe dans le monde. Et donc il y a eu la demande de Slow Food International, justement de structurer un peu ce qui se passait au niveau national, donc dans les pays. Mmh. Et ici, on a profité de plein de choses qui se mettaient en même temps pour faire ce marché de la terre. Et depuis mars, pour créer la SBL qui va gérer toute la partie plutôt professionnelle. Mmh.
Voilà pour l'action en 2025 pour ce qui nous concerne en Belgique. Et c'est bien de voir ce genre de démarche se développer. Pour revenir à Slow Food, Martha Messa, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de Slow Food. C'est un mouvement qui est né dans les années 80-86. Il y a Carlo Petrini. Il y a l'installation d'un fast-food en Italie, à Rome, je pense. Alors là, ça a fait un tollé général. Nous, on ne veut pas de la fast-food, on veut du Slow Food. C'est comme ça qu'a démarré ce mouvement qui est devenu aujourd'hui mondial, avec des convivia, avec des sentinelles du goût que vous avez développées pour ainsi soutenir des filières artisanales, le Terra Madre, ses sommets. Il y a aussi l'université, Slow Food, dans le nord de l'Italie. Mais quand même, moi, je voudrais parler vrai, parce que franchement, ici, on est tous adeptes de cette Slow Food, et beaucoup de nos auditeurs aussi, mais il y a la réalité, il y a la vie. Il y a aujourd'hui un grand marché internationalisé, des géants de l'agro-business. Il y a des réalités terrain quand on est aujourd'hui agriculteur. On est dans un système, on a effectivement beaucoup de soutien de l'Europe avec la PAC. On est même sous perfusion et on n'a pas forcément le choix que de virer de bord et d'aller vers une agriculture plus résiliente, vers des produits qui font plus sens. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore la capacité de changer ce système mondialisé qui, quand même, aujourd'hui... C'est la grosse part du gâteau, comme dirait Carlo. Ouais. Et Fabrizio, surtout, aujourd'hui.
Vous avez compris la question ou...
Il y a l'agro-business qui est quand même aujourd'hui la majorité. Okay. Puis il y a ce mouvement qui essaye de faire petit à petit changer les choses. Est-ce qu'on a encore l'impression que ça va peser?
Oui, absolument. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'un mouvement comme Slow Food peut faire et ce que tu disais, Maxime, de mettre ensemble les différents acteurs. Et ça, ce sont des acteurs que, je peux dire, ils s'en fichent de politique parfois. C'est-à-dire, on a parlé de la politique agricole commune. Oui. Donc, c'est un tiers du budget de l'Union européenne. Les 16 juillet, la Commission européenne va proposer les prochains budgets de l'Union européenne. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il y aura encore de l'argent pour l'agriculture? Oui, non, combien, etc.
Ça risque de tromper.
Mais nous avons plein de producteurs qui ne touchent pas cet argent-là. Parce qu'ils disent... D'un côté, parfois, c'est trop compliqué. De l'autre, je veux produire de la nourriture et la vendre au niveau local. Et ça ne m'aide pas. Donc, et c'est possible de faire autrement. Le Slow Food, les producteurs, les cuisiniers aussi qui sont impliqués sont la démonstration vivante qu'il y a une manière autrement de faire. Et ça, au niveau global, parce que comme mouvement, dans 160 pays dans le monde entier, on a des témoignages chaque jour des gens qui disent... Moi, j'ai cette passion, et des événements comme Terra Madre, c'est vraiment là où on échange cette énergie. Et on a entendu plein de fois comment des gens sont revenus de cet événement en disant « Bon, je vais faire plus. »
Mais cela étant dit, Carlo, vous parliez de la PAC, il y a pas mal de réactions d'auditeurs. Il y a quand même beaucoup, et des agriculteurs qui réagissent ce matin sur notre courriel bientôt@rtbf. Ils disent « Moi, je suis producteur, notamment Bertrand. » Il dit « Je suis producteur de père en fils. On est dans l'agriculture conventionnelle. On aimerait forcément, philosophiquement, passer à quelque chose de plus résilient, mais on en est totalement incapable. » Et vous le dites d'ailleurs, Slow Food, par rapport à la PAC, cette PAC, elle met sous perfusion l'agriculture européenne et elle supporte aussi souvent les gros groupes industriels. Ouais. Donc, on est, en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
Donc, c'est pour cela aussi qu'au niveau de Slow Food, on essaie d'apporter les changements au niveau terrain, au niveau producteur, mais aussi au niveau consommateur, donc avoir la conscience, la connaissance, mais au niveau politique aussi. Donc, juste hier, j'étais 4 heures dans une réunion au niveau de la Commission européenne avec les représentants de l'agro-industrie ainsi que des autres organisations comme Via Campesina, l'organisation du bio, mais aussi il y avait les représentants de l'industrie des pesticides, etc. Ouais. Et on essayait tous ensemble, autour de la table, les 30 représentants, de trouver des recommandations aux données au commissaire de l'agriculture à Hansen pour qu'il puisse négocier sur le budget de la PAC. Et on a eu énormément du mal parce que il y a un grand intérêt de l'agro-industrie à retenir la situation comme elle est. Et donc, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de l'appui technique qui les producteurs, les paysans reçoivent au niveau local.
Mais Martha, en même temps, on peut rêver sans désespérer, dans le sens où l'agriculture continue, il y a une partie de l'agriculture industrielle qui continue, ne s'arrêtera probablement pas, en tout cas pas tout de suite, et qui parfois aussi est nécessaire pour certaines choses. Et à côté de ça, le travail que vous faites est un travail de lobbying, et un travail de sensibilisation, et aussi un travail très concret. Parce qu'on parle souvent dans cette émission des appellations d'origine protégée, vous êtes un petit peu ailleurs. Vous avez ce qu'on appelle, Sophie l'a évoqué tout à l'heure, les sentinelles du goût, c'est quelque chose de terriblement concret. Ouais. C'est-à-dire que vous identifiez dans le monde entier des produits qui risquent de disparaître, comme par exemple, je ne sais pas moi, le sirop la traditionnel gueuse. De Liège.
La gueuse.
Je pense que la gueuse
est une sentinelle. Il me semble que la gueuse est une sentinelle de goût.
Voilà.
Vous identifiez, mais la gueuse, elle va bien.
Ouais.
Mais
c'est une sentinelle qui va bien.
Vous identifiez ces produits et vous aidez ou vous encouragez, parce que de nouveau l'initiative est locale, à faire en sorte que ces produits soient badgés, soient étiquetés, soient revendiqués, soient soumis à des cahiers des charges, et avec des salons comme Terra Madre et à Bruxelles, qui est quand même la première édition, ou comme des salons que vous faites à Turin, vous faites en sorte que ce soit connu. Et c'est cette percolation qui fait que quand même des consommateurs peuvent aller se rapprocher de ces produits-là, et tout en achetant parfois encore des pâtes industrielles.
Et on est en train d'élargir ça maintenant, parce que on est parti des sentinelles, donc Slow Food l'histoire, on est contre les fast food, on est parti des produits petit à petit, on s'est dit bon, il faut aussi voir tout ce qui se passe jusqu'à le produit arrive dans l'assiette, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du travail sur le terrain, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des semences, qui échange les semences ou contrôle les semences, etc. Et donc, les sentinelles est un super projet pour faire ça, cette biodiversité. Et depuis les dernières années, nous avons lancé aussi l'initiative de Slow Food Farms, donc les fermes Slow Food, pour soutenir tous ceux qui font un travail absolument fantastique au niveau, on parle d'agroécologie, donc d'une production respectueuse de l'environnement, des personnes, des animaux, etc. Et peut-être ils ne travaillent pas avec un produit à risque de disparition, mais ils font un travail absolument important au niveau de production alimentaire quand même, et donc on veut mettre avant eux aussi, et donc on le lance aussi maintenant en Belgique lundi, la rencontre des cuisiniers, une autre rencontre que nous organisons se passe dans une des premières fermes Slow Food ici en Belgique, et donc c'est vraiment ça, c'est les concrets, et c'est pour cela que je pense, Sophie, les changements sont possibles, parce qu'il faut mélanger ça, il faut que tous les acteurs soient autour de la table.
Mais tous les acteurs doivent être autour de la table, ils le sont souvent, mais en totale opposition. J'ai eu écho d'une très très grosse réunion qui s'est tenue à Bruxelles il y a quelques mois, où il y avait des grands représentants, des géants comme Bayer, etc., la FNSEA pour la France, grand syndicat agricole, et on avait deux discours totalement différents. Les uns qui disaient « on va faire de notre Europe quelque chose d'antiproductif, vous êtes anti-technologique, vous refusez d'autoriser les OGM et c'est un frein à l'innovation, c'est anti-compétitif, l'Europe, disait-il, risque même de se mettre hors jeu face à l'agriculture mondiale. » Quand on est un petit poussé comme un Slow Food, face à tout ça, face à cette réalité-là, et face aussi à des chiffres qui prouvent que nous consommons ces produits, c'est quand même dur de faire entendre tout ça.
Oui, mais c'est là quand même que je pense que c'est toujours important d'avancer, parce que ça peut peut-être qu'on laisse cet acteur-là prendre encore plus d'espace. Mmh. C'est-à-dire, aussi, on parle beaucoup de compétition maintenant. Il faut être compétitif, etc. Et ce que je dis toujours, c'est la compétition dont il parle, c'est la compétition vers la pire situation pour tout le monde. Parce que c'est une compétition pour la plus grande quantité de produits au prix les plus bas.
On produit plus, moins cher.
Moins cher, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'analyse que tu as fait de l'avocat. C'est-à-dire, c'est des produits qui n'ont rien au niveau nutritionnel, qui n'ont pas de goût non plus, mais aussi qui ont un impact terrible sur, les écosystèmes, donc au niveau d'utilisation de l'eau, au niveau de pollution, etc. Ils ont un impact énorme sur la santé, pas seulement de la planète, mais des personnes, parce que tout s'arrête.
Donc, vision court-termiste, si je comprends bien, de ce que je comprends.
Oui, voilà.
Mais en même temps, est-ce que le consommateur, bon, qui termine le mois avec à peine quelques euros sur le compte, il a cette démarche-là de dire, bon, moi j'ai envie d'un petit avocat parce que j'ai quand même envie d'un petit toast. Est-ce que ça peut aujourd'hui
Oui, donc il faut faire encore une fois plusieurs actions parce qu'on ne peut pas juste dire au consommateur, toi tu es responsable, c'est ta faute. Si ça, c'est pas ça.
Non, mais c'est trop simple. Tout
voilà,
ça,
parce que aussi, il faut se regarder à l'alentour. Donc, nous avons la chance d'être à Bruxelles. Il y a pas mal des endroits où il y a des petites boutiques qui font... Il y a des fromageries, il y a plein de boulangeries qui font de pains très intéressants. Il y a des endroits où acheter à manger et à manger bien. Mais il y a aussi pas mal de villes aussi, même ici en Belgique, où pour aller acheter n'importe quoi, je ne perds pas de qualité, je veux dire n'importe quoi, des produits super transformés, industriels, il faut faire pas mal de routes. Donc, on les appelle les food deserts, food dumps.
Oui, voilà. Ça concerne beaucoup de nos concitoyens.
Voilà, et donc d'un côté il y a ça, de l'autre côté, regardons ce que les enfants mangent dans la cantine scolaire. Donc il y a des efforts dans certaines villes en Belgique pour aller dans la direction de la durabilité. Ça, c'est un autre marché qui a une influence énorme sur la production et en même temps sur l'éducation au goût que nos enfants ont, et les enfants sont ceux qui vont acheter dans le futur.
Sur la question du prix, je voudrais juste, c'est quelque chose qu'on répète souvent dans cette émission, mais n'oublions jamais que la plupart des produits que nous achetons en grande surface, et d'ailleurs, regardez bien, parce que dans les grandes surfaces, il y a des bons produits, il y a des produits parfois locaux et de très bonne qualité.
Bien sûr.
Mais la plupart des produits industriels que nous achetons, on paye une partie de valeur ajoutée pour la marque énorme, et c'est nous, consommateurs, qui la payons, c'est le distributeur aussi qui la paye, et en fait, ce surplus plus. En fait, c'est là que se niche la marge énorme des industriels. Et c'est nous qui la payons. Donc, l'argument du « c'est moins cher », oui, ça peut être moins cher en supermarché, à condition d'acheter local, à condition de savoir plus ou moins ce qu'on achète et de bien choisir. Et je rebondis aussi sur les cantines scolaires. Il y a des cantines scolaires que je connais, que j'ai fréquenté pas du temps où j'allais à l'école, mais récemment, où on arrive à faire à manger du frais, pas du bio, mais du frais, tous les jours, dans une cuisine, pour 600 élèves, avec un food cost, un coût matière de moins de 2 euros par personne, en donnant des produits de qualité, à condition de ne pas vouloir faire du steak frites tous les jours, bien entendu.
La faute, c'est quand même que tu vas encore manger à la cantine scolaire, quoi.
Oui, mais bon. Fabricio, on parlera de ma
Je voulais terminer votre petite discussion, les amis, parce que les réactions sont très très nombreuses aujourd'hui, pas mal d'auditeurs qui nous disent, mais enfin, l'Europe a quand même mis en place le Green Deal. Oui, alors c'est très important parce que l'idée du Green Deal, c'est de verduriser l'Europe, de la rendre plus neutre en impact carbone. Donc ça, on peut s'en féliciter, mais on observe aussi, paradoxalement, beaucoup de retours en arrière par rapport à des pressions politiques, par rapport justement à tous ces agriculteurs venus manifester en masse dans les rues ces derniers mois.
Ouais. Mais il faut dire aussi les manifestations, je pense qu'il y a eu des malentendus sur les manifs parce que j'étais là le jour où tous les tracteurs sont arrivés sur Bruxelles et sur la place Luxembourg, il y avait ils ont commencé à faire quelqu'un a commencé à faire un peu n'importe quoi. Et à chaque 5 mètres, il y avait une autre association des agriculteurs. Donc il y avait les Italiennes, il y avait les Flamands, les Français. Et chacun, si on entendait, avait un message entièrement différent. Ouais. Et si on réfléchit sur ça aussi, par exemple, les protestes en Allemagne, elles sont parties à cause du prix du diesel. Donc, il n'avait rien à voir avec la législation du Green Deal.
C'est ça.
Entre l'Espagne et la France...
Aux Pays-Bas, c'était pour pouvoir continuer un peu à polluer.
C'est ça. Donc, entre l'Espagne et la France, c'était sur le terme des échanges de produits entre les deux pays. Pour la Pologne, c'était le souci avec l'Ukraine. Pour l'Italie, c'était la viande faite en laboratoire.
Mais le résultat, c'est qu'il y a quand même beaucoup de marche arrière dans des décisions, des moratoires qui ont été déplacés, etc., en disant, bon, ça, on va attendre avant avant de le mettre en place. Ouais.
Donc on a analysé ça aussi. Et au niveau du Green Deal, donc, nous étions super contents quand c'est arrivé, parce qu'on parlait des systèmes alimentaires, pas juste que d'agriculture. Et donc aussi, les propositions que la Commission avait faites, c'était de toucher plusieurs politiques au long de la filière alimentaire, au long du système alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est pas arrivé. Donc, juste les politiques sur lesquelles ils ont juste travaillé, c'était plutôt les politiques liées à la production, ce qui a mis une pression plus importante sur les agriculteurs qui après se sont organisés pour, au niveau européen, pour faire du lobbying. Et effectivement, ce qui s'est passé après cette proteste, le représentant européen de l'agro-industrie sont arrivés à tout enlever et même à avoir une révision de la politique agricole commune dans 3-4 semaines, ce qui n'est jamais arrivé.
C'est ça.
Parce que normalement, ça prend énormément beaucoup plus de temps. Donc, il y a des enjeux politiques importants. C'est aussi important que le producteur au niveau pays soit conscient de qui les représente ici à Bruxelles. Et je comprends aussi que pour une association tellement grande comme les représentants des agriculteurs ici au niveau européen, mettre d'accord les Italiens avec les Danois, avec les Espagnols, c'est compliqué. Mais enfin, le message qu'ils passent, c'est on maintient la situation comme elle est et on avance comme on a toujours fait. Et donc, au niveau terrain, qu'est-ce qui se passe? Cette dépendance des producteurs des associations des agriculteurs existantes veut dire qu'ils n'ont pas l'appui technique pour faire cette transition, ils n'ont pas l'appui non plus économique pour aller dans une direction plus de durabilité.
Petite réaction, Maxime Gérard, vous êtes notre Maxime Renard, pardon.
Comme
Voilà, oui, vous êtes donc le chef du jour. Petite réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre, vous qui êtes venu là ce matin avec un très beau pain d'un bon boulanger de Liège.
Là, pour le coup, c'est sur Namur.
Mais Namur, d'accord.
J'habite entre les deux.
C'est pas très local, ça.
En fait, honnêtement, ça se mange. Ça, c'est du concret. Enfin, moi, je vais le manger, en tout cas. Ouais. C'est pas pour vous.
Ça, c'est ce que vous avez apporté.
Ça se mange. Ouais. Je veux dire, ici, ça devient un peu compliqué pour... Enfin, je parle vraiment pour moi.
Ouais.
Je me dis, on a déjà beaucoup de tracas, en fait, qui sont... Je veux dire, la plupart de mon temps, en fait, moi, je ne cuisine pas. Je suis derrière un bureau où je dois faire des factures, je dois...
À compter.
Ça fait partie du métier, je l'ai choisi, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai plein de choses à gérer, puis on monte plein de projets, c'est chouette. Mais dans les faits, nous, on se concentre sur la nourriture.
Ouais.
C'est ça. Et quand on commence à parler... Enfin, j'entends politique, et du coup... Moi, à un moment, je suis perdu et je me dis, ok, c'est pas grave. Je me concentre sur ce que je fais et sur comment je peux avancer à mon niveau. Et en fait, on se rend compte que d'initiative... Alors ici, j'aime bien te parler de ça, c'est le vinaigre ici. Oui. C'est quoi ce vinaigre? C'est un vinaigre de bière, mais c'est pas de n'importe quelle bière. C'est de la Bajau, une bière locale bio liégeoise.
J'adore.
Et pourquoi cette bière-là? Parce que ça, c'est fait avec des restes de bière qui ne sont pas vendables.
La drèche.
Des fonds de cuve. Alors,
c'est pas la drèche?
Non, là du coup c'est plutôt quand on embouteille.
C'est du liquide.
Ouais, là c'est vraiment de la bière qu'on ne peut pas mettre en bouteille.
D'accord.
Par exemple, vous allez soutirer de la bière, vous avez un fond de cuve ou les conduites. La conduite contient encore de la bière, plutôt que de l'acheter à l'égout, on récupère toute cette bière-là qu'on ne peut pas mettre en bouteille et on la transforme en vinaigre. Voilà. Ça, c'est un projet.
Mais est-ce que ce vinaigre-là va coûter plus cher qu'un vinaigre que vous achèteriez chez un grossiste?
Du coup, non. Pourquoi? Parce que nous, on réfléchit justement...
C'est ça.
En fait, on réfléchit à comment faire pour... J'adore votre question. Pourquoi? Parce que si on raisonne comme un industriel classique, ça va poser problème parce que on va avoir des coûts...
la production.
Ouais, les coûts de production vont plomber le prix. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille ici avec la moutardante, avec l'huilerie en Sion et avec l'Ilocajo. On est en train de monter une coopérative où on va mutualiser nos outils.
C'est ça.
On mutualise nos outils, on mutualise notre RP, on va mutualiser la distribution, on va mutualiser la vente, donc toute la partie commerciale. Et donc là, on a des projets qui sont terre à terre.
On va se mettre ensemble pour
exactement
faire grossir.
On vient de rater les subsides de la Fondation Roi Baudouin. On s'en fout. On a une idée, on fonce. Et c'est pas grave, on trouvera d'autres fonds, on va mettre ça en commun. Et quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, Ben, c'est pas grave. On va
c'est
mettre.
Ça. Il faut de la conviction. Ça ouais. nécessite effectivement une démarche intellectuelle, une démarche aussi de temps. C'est parce que c'est chronophage, hein, tout ça, aller chercher ah, oui, ces oui, produits, oui. parce que c'est pas une grande entreprise où vous allez remplir votre caddie pour la semaine. Donc effectivement, c'est un travail de fond. Et c'est tout l'objectif aussi de ce grand rendez-vous Terra Madre qui se tiendra aujourd'hui jusqu'à mardi.
Et, c'est où,
et ça se passe
où,
en fait ça se passe ah, où
Alors, dimanche, demain, c'est à Be Here.
Ouais. Be Here, on est où?
À côté de Touré Taxi.
Voilà. Ah. voilà. Et on peut y aller comme ça? On ne doit pas
oui,
réserver
absolument.
Ok.
Venez.
Vous devez y aller comme ça.
Oui. Okay.
Enfin, comme ça.
Et il y aura un grand marché de la terre
oui.
aussi.
Oui, c'est ça. Et après, lundi, c'est plutôt des rencontres fermées, si je peux dire comme ça, à la ferme Foster, qui est la première ferme slow food
chez Maloma. Oui.
Maloma, pardon, chez Maloma.
On est dans le Brabant Wallon.
Oui. Le Brabant Wallon. Et après, mardi, on est sur Bruxelles. On revient sur Bruxelles. Donc D'accord. là, on a plus de rencontres.
Où est-ce qu'on trouve toutes les infos?
Sur le site donc slowfood.com. Si vous cherchez tout simplement slow food de Terra Madre Europe, donc Europe. Okay. Vous le trouvez, voilà.
Voilà, on va s'offrir une petite pause, les amis. Juste après, on va parler de l'art de la découpe de vos gâteaux.